Alors, Gérard, des circonstances multiples m'empêchent d'être parmi vous aujourd'hui et je remercie Christelle de me prêter sa voix pour, au nom de la Convention Vie et Nature, exprimer notre indéfectible volonté de sauver le vivant. La guerre du loup est emblématique de ce que l'homme fait à l'ensemble de la vie sauvage. Si présents par milliers en Italie et en Espagne, les loups sont globalement bien accueillis par les populations de ces pays. Son retour en France à partir de 1992 suscita de la part des milieux agro-cynégétiques des réactions hystériques, irrationnelles, violentes, marques de l'arriération de ces milieux. Pour les structures agricoles et pour les politiciens qui relayèrent leurs fantasmes, la présence du loup serait incompatible avec l'élevage, notamment ovin. Or, en Italie et en Espagne, les loups et l'élevage cohabitent relativement pacifiquement. Il est vrai que, confondant les parcs nationaux de France et les parcs à moutons, les éleveurs laissent divaguer sans surveillance, sans contrôle et sans limite leurs troupeaux dans les montagnes, provoquant par ailleurs surpâturage, destruction de la flore et propagation de maladies à la faune sauvage. Dans les Abruzzes, zone à loups et à élevage ovin, les troupeaux sont rentrés tous les soirs, mais il faut dire que la production est davantage tournée vers le lait que vers la viande. Il suffisait pour les éleveurs français d'adopter des mesures de protection des troupeaux, telles que gardiennage, chiens et clôture. Et puis l'Europe indemnise largement les pertes résultant des prédations commises par les loups. En fait, le problème n'est nullement économique, il est culturel. En ce pays, le personnage agro-cynégétique type n'aime pas les loups. Il n'aime pas davantage les ours, les lynx, les renards, les vautours et même les marmottes accusées de creuser des terriers dans les alpages. Il n'aime pas la nature qu'il considère comme une ennemie à combattre, à domestiquer, à maîtriser et finalement à détruire. Notre approche est irréductiblement irréconciliable avec celle des tueurs agréés. Pour nous, il est essentiel de préserver la biodiversité, c'est-à-dire cette merveilleuse diversité des formes du vivant, formes dont l'humain anéantit présentement des pans entiers. Amphibiens, reptiles, oiseaux, insectes, mammifères semblent condamnés à un déclin fatal, à une disparition rapide, parce que l'homme tue, exploite, aménage, empoisonne tout. Pour l'homme contre nature, pour l'homme nuisible, pour l'homme mauvais, il y a toujours une raison d'exterminer le vivant. Le loup mange le mouton et le renard la poule. Le jais mange des cerises et l'hirondelle souille la façade. Le requin attaque le baigneur imprudent et l'éléphant dévaste les récoltes. Comment ne pas comprendre qu'il faut changer notre approche de la nature et de persécuteurs cruels, se muer enfin en amis bienveillants. J'accuse les successifs gouvernements français de n'avoir pas fait œuvre pédagogique en accompagnant les délires des milieux agro-cynégétiques au lieu d'éduquer au respect des espèces sauvages. En autorisant des tirs de loups, les politiques confortent les préjugés d'une fraction ultra-minoritaire et tapageuse de l'opinion, alors qu'il fallait tenir un langage de vérité et de fermeté. L'immense majorité de nos contemporains souhaitent la préservation des loups, mais que vaut la démocratie face aux gesticulations du lubeau, du lubie agro-cynégétique? L'éleveur-chasseur fait peur par sa violence et par la capacité des organisations agricoles à mobiliser quelques centaines d'excités pour troubler l'ordre public ici ou là pour exiger l'éradication du loup. Aujourd'hui, Nicolas Hulot vient d'accéder au ministère de l'écologie. La question du loup sera un test révélateur de sa capacité à faire prévaloir le bien public contre les menées des obscurantistes. S'il interrompt les tirs, il méritera notre estime. S'il cède aux pressions des autres ministres et des relais du lobby chasse, il se sera discrédité en acceptant une fonction qui n'honore que lorsqu'on peut y faire triompher ses convictions, mais qui avilit lorsqu'elle n'est qu'un misérable aboutissement de carrière. Combien de pseudo-écologistes ont ainsi chuté en endossant un titre officiel, tout en couvrant de leur seule présence des exactions contre la nature. Pour Nicolas Hulot, ce sera la preuve par le loup. Pour nous, le combat pour le vivant est un impérieux devoir auquel nous obéirons constamment. Merci de le mener tous ensemble. Gérard Charolois.
Merci Christelle, merci beaucoup.